fait, ça n'a jamais été fini. C'est resté là. Il y en avait d'autres à venir. Alors, nous finissons sans question. Alors on ne dit rien.
Hein? Déjà la dernière partie, la dernière paragraphe, c'est ça. On s'impose la même question, que si le supramental était caché, est caché, alors pourquoi c'est tellement difficile dans la vie pour le trouver? Le supramental qui s'est caché dans la matière de l'ignorance, pourquoi c'est tellement difficile pour le trouver, même quand nous le trouvons devant nous?
Tu entends pas ce qu'il dit? J'entends rien. Entre, qu'est-ce qu'il dit?
Si le supramental est caché derrière les choses,
oui.
Pourquoi est-ce si difficile de le trouver?
Parce qu'il est caché.
Non, même dans l'ignorance, il agit, il mène vers la vérité.
Même dans l'ignorance, il agit. Derrière l'ignorance, donc il l'amène vers la vérité.
Non, mais il explique, n'est-ce pas, que s'il n'y avait pas la vérité supramentale derrière les choses, jamais le monde n'aurait pu être organisé, même comme il est organisé. On a l'impression d'une conscience qui a une volonté très éclairée, et qui a tout organisé d'après un plan très précis, qui ne peut pas être le résultat ni de l'ignorance ni de l'inconscient. Au fond, votre difficulté à percevoir le supramental ou la conscience de vérité derrière les choses donne exactement la mesure de votre ignorance et de votre inconscience personnelle. Parce que ceux qui sont sortis de cette ignorance et de cette inconscience le voient très clairement. La difficulté dépend de l'état d'inconscience dans lequel on se trouve soi-même. Mais pour celui qui a dépassé cet état d'inconscience, ce n'est pas difficile du tout de le trouver. Il est très perceptible. Si on entre dans une conscience un peu philosophique, psychologique et subjective, on peut très facilement se rendre compte d'une sorte d'irréalité objective des choses, de ce qui, pour la conscience ordinaire, est seul, réel, tangible, concret, mesurable, pour ainsi dire, devient si fluide. Reste inconsistant et n'ayant de réalité que dans la conscience qu'il perçoit, une réalité absolument variable et quelquefois tout à fait contradictoire, suivant la perception de la conscience. Si nous mettons en face de nous les différentes explications qui ont été données du monde, les différentes façons dont on l'a exprimé, on aura une série de notions qui sont parfois absolument contradictoires et qui sont pourtant des perceptions de différentes consciences s'appliquant à quelque chose qui est identique. Justement, à propos de cette dernière phrase-là, nous avons un point extrême qui est l'affirmation que tout ce qui est l'expression totale et complète de la volonté divine. Il y a ce que l'on pourrait appeler une certaine école de pensée qui, basée sur leur expérience personnelle, ont affirmé que tout est l'expression de la volonté divine d'une façon parfaite. Et puis, tout à fait à l'autre bout, l'affirmation que le monde est une sorte de chaos sans rime ni raison qui s'est produit on ne sait comment et on ne sait pourquoi, qui va on ne sait où, qui n'a aucune logique, aucune raison, aucune coordination. C'est un hasard. Il se trouve que c'est comme ça, on ne sait pas pourquoi. Bien, si vous avez ces deux extrêmes et que vous avez tout ce que l'on a dit, tout ce que l'on a écrit, tout ce que l'on a enseigné, tout ce que l'on a pensé sur le monde depuis ce bout-là jusqu'à celui-là, et que vous pouvez le regarder, vous vous apercevrez que comme il s'agit du même monde, et que les explications sont si totalement différentes, ce monde n'existe, pour ainsi dire, que dans la conscience de celui qui le voit. Il doit bien y avoir quelque chose. Mais ce quelque chose doit être au-delà de ce que les hommes en pensent. Beaucoup au-delà. Très différent. Et alors, on a ce sens complet d'une irréalité qui est insaisissable. Et au fond, sa réalité est tout à fait subjective pour la conscience de chacun. Ça n'a aucune réalité objective, puisque dans un cas, on peut dire que c'est le résultat d'une de la suprême volonté suprêmement consciente, et que tout est régi par ça, et que dans l'autre cas, on peut dire que c'est quelque chose qui n'a aucune raison d'être, excepté un hasard insaisissable. Et pourtant, ça s'applique à quelque chose qui est la même chose. Vous n'avez jamais réfléchi à ça, hein? Chacun a son idée, plus ou moins claire, plus ou moins organisée, plus ou moins précise. Et c'est cette idée-là qu'il appelle le monde. Chacun a sa manière de voir, sa manière de sentir et sa relation propre avec tout le reste. Et c'est ça qu'il appelle le monde. Il se met naturellement au centre et puis tout le monde s'organise autour de ça. Selon la façon dont il le voit, le sent, le comprend. Selon sa réaction propre. Mais comme pour si on prend chaque conscience individuellement, dans chaque conscience c'est différent, alors ça veut dire que ce que nous appelons le monde, la chose en elle-même, échappe complètement à notre perception. Ça doit être autre chose. Et il faut que nous sortions de notre conscience individuelle pour pouvoir comprendre ce que c'est. Et alors c'est ça que Sri Aurobindo explique comme le passage de l'hémisphère inférieur à l'hémisphère supérieur. Dans l'hémisphère intérieur, il y a autant d'univers qu'il y a d'individus. Et dans l'hémisphère supérieur, il y a quelque chose qui est ce que c'est. Et où toutes les consciences doivent se rencontrer. C'est ça qu'il appelle la conscience de vérité. À mesure que la conscience humaine progresse, elle a de plus en plus le sens de cette relativité et en même temps une sorte de sentiment, on pourrait dire, d'appréhension qu'il y a une vérité qui est n'est pas perceptible pour les moyens ordinaires, mais qui doit être perceptible d'une façon quelconque. Voilà. Et alors, J'espère qu'avec notre prochaine étude, qui sera la vie divine, nous trouverons la clé du problème.